Bienvenue dans Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présentée par Marie-Catherine Bédouré.
Bonjour à tous. La Pologne ne cesse de nous surprendre. Nous avons découvert précédemment le miracle eucharistique de Sokolka au nord-est de la Pologne, événement qui s'est produit en 2008. Aujourd'hui, nous partons pour la ville de Legnica, une ville de 100 000 habitants située en Basse-Silésie, dans le sud-ouest de la Pologne. Elle était un territoire allemand jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, pour plaire à Staline et aux puissances victorieuses, la Pologne a été découpée et recousue quelques centaines de kilomètres à l'ouest, ce qui a entraîné le déplacement de millions d'Allemands et de Polonais au prix d'énormes sacrifices. C'est ainsi que Legnica, allemande, est devenue la Legnica polonaise. Ou plus exactement, Legnica. Dans cette ville, dans un quartier populaire situé non loin du centre-ville, se trouve une élégante église paroissiale néo-gothique dédiée à Saint-Hyacinthe. Jour de Noël 2013. La première messe est célébrée. Il se produit ce que nous avons déjà vu se produire à Sokolka, 5 ans plus tôt. Au moment de la distribution de la communion, une hostie tombe sur le sol par inadvertance. Et comme à Sokolka, et conformément au code du droit canonique, l'hostie est mise dans un récipient rempli d'eau et enfermée dans le tabernacle afin qu'elle se dissolve.
On l'a méprisé, rejeté, et pourtant...
Quelques jours après, Don Andrei Ziomba, accompagné d'autres prêtres, va voir l'hostie consacrée tomber à terre. 2 semaines se sont écoulées. S'est-elle dissoute dans l'eau? Non, l'hostie n'est pas dissoute. Elle apparaît tachée de sang, sur environ 1/5 de sa surface. L'évêque est informé des faits. Il nomme une commission de compétences, théologiques et scientifiques, pour procéder à l'analyse. Entre-temps, au fil des jours, le changement de couleur de la tache sur l'hostie passe d'un rouge intense à un rouge foncé. L'échantillon de l'hostie est prélevé directement par les scientifiques, le 26 janvier 2014. Pour les prêtres, le miracle est évident. L'Institut médico-légal de Wroclaw exclut, dans la première analyse, la présence de bactéries ou de champignons qui se colorent de rouge. En revanche, la seconde analyse histopathologique montre que certains fragments peuvent être une partie de tissu cardiaque. Un avis supplémentaire est demandé auprès de l'Institut médico-légal de Szczecin, où les échantillons sont déposés, sans pour autant préciser leur origine. Les spécialistes utilisent alors une méthode de recherche différente. Le département d'histopathologie de la faculté de médecine de Poméranie de Szczecin, au terme des analyses menées, annonce dans un communiqué qu'il a été découvert dans l'image histopathologique des échantillons de tissus constitués de fragments de fibres musculaires striées en coupe transversale. Et cela ressemble fortement à un muscle de cœur humain, avec présence d'altérations fréquemment observées dans des cas d'agonie. Les tests ADN indiquent que le tissu est d'origine humaine.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour séduire. Blessé dans le silence, abandonné, s'enfuir. Comme un agneau livré, sans ouvrir la voie. Il portait nos douleurs, sans se défendre, sans loi.
Les résultats des analyses présentées au Vatican auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi reconnaît le caractère surnaturel de l'événement. Le 17 avril 2016, le nouvel évêque de Legnica annonce lors de la messe que suite aux indications du Saint-Siège, il ordonne au vicaire paroissial Don Andrei Ziombra la préparation d'un lieu adapté pour exposer la précieuse relique. De fait, depuis l'été 2016, l'ostensoir contenant la relique est solennellement placé dans une petite chapelle dédiée à la Divine Miséricorde dans l'église Saint-Hyacinthe.
Nous l'avons cru frappé, rejeté par Dieu, mais c'était nos péchés qui pesaient sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par son silence, nos cris ont un prix. Il a tout porté jusqu'à mourir pour que nos vies puissent revivre.
Pourquoi le cœur ? S'interroge le cardiologue italien Franco Serafini, qui a déjà étudié Sokolka en 2008, Tixla en 2006 et Buenos Aires en 1996. Voici en résumé ce qu'il écrit. Le cœur, dans toutes les cultures et à toutes les époques, a toujours représenté quelque chose au-delà de sa fonction de pompe musculaire du système circulatoire. Il se prête à un symbolisme plus important. 1. Il représente le centre de l'être humain, le lieu intime où résident les intentions et la volonté plus profonde de l'individu et dans lequel s'écoule tout l'être concret de l'homme. 2. Il est le point de connexion et d'union entre les composantes corporelles et spirituelles de l'homme, siège de la religiosité et lieu d'ouverture à la transcendance. Il portait à aimer ou tout simplement la personne tout entière comme Dieu seul est en mesure de la connaître. Au cours des siècles, la chrétienté a, à juste titre, reconnu un culte et des dévotions spéciales à quelques parties plus importantes du corps de Jésus, le Sacré-Cœur, la Sainte Face, les plaies. Mais la dévotion au Sacré-Cœur a constitué l'épine dorsale d'une religiosité comprise par les simples, confirmée par des mystiques, est soutenue par un puissant cadre théologique. Elle est bien présente encore aujourd'hui. L'amour de Dieu y est exalté de manière concrète, voire charnelle, grâce à l'image du cœur, tout en appelant la pénitence et la réparation des péchés.
Entre tes mains, il remet son esprit pour les miens.
Le docteur Franco Serafini conclut dans son livre « Les miracles eucharistiques, dans leur improbabilité, nous disent discrètement, mais très clairement, pour ceux qui veulent le comprendre, que dans l'Eucharistie est réellement présent ce corps blessé et torturé à mort sur la croix aux portes de Jérusalem un vendredi entre l'an 30 et 33 après Jésus-Christ. L'Eucharistie est présente dans n'importe quelle latitude. Elle est présente aujourd'hui comme elle était présente hier et sera présente demain jusqu'à la consommation des temps. C'est le même corps qui siège glorieusement à la droite du Père et qui, simultanément, dans un éternel présent, souffre le supplice sur le Golgotha. Je vous dis au revoir sur une prière lue par l'intelligence artificielle au service de notre foi. À la semaine prochaine.
Toi, l'homme de douleur,
on l'a méprisé.
Méprisé, rejeté, brisé pour mes fautes.
Rejeté.
Aujourd'hui, je me tiens au pied de ta croix en silence.
Et pourtant,
je n'ai plus de mots.
C'était pour nous.
car je comprends que c'était pour moi. Oui, pour moi tu as été transpercé. Pour moi tu as été broyé. Pour moi tu as tout porté. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes chemins perdus, pour mes refus d'aimer, pour mes silences quand j'aurais dû te choisir. Tu n'as pas ouvert la bouche, mais ton amour a crié plus fort que tout. Tu as pris sur toi mes blessures. Et par tes plaies, je suis guéri. Apprends-moi l'obéissance dans l'épreuve. Apprends-moi à te faire confiance quand tout devient sombre, quand mon cœur est fatigué. Aujourd'hui, je dépose ma vie entre tes mains. Comme toi, tu l'as fait sur la croix. Prends mes peurs, prends mes douleurs, prends tout ce que je suis. Et fais naître en moi un cœur nouveau, un cœur qui aime jusqu'au bout. Seigneur Jésus, toi qui as tout accompli, reste avec moi dans le silence de ce jour et donne-moi la force de vivre pour toi. Amen.
Vous venez d'écouter Eucharistia, l'émission qui vous emmène à la découverte des miracles eucharistiques. Présentée par Marie-Catherine Bédouret.